Prenez les clés de la maison, du char, voici mon hit, ma carte bancaire, partez avec tout. C'est ça qui est arrivé.
Moi, je suis mal, puis je pense que si j'étais le propriétaire de Jim Irsay, je serais inquiet parce que je veux dire, tu sais, quand ton coach s'appelle Jeff Saturday, puis que la première fois qu'il a l'occasion de jouer un Saturday, il se fait détruire de même. Sérieusement, je suis mal pour le gars. Tu sais, je suis mal pour Matt Ryan. Mais le gars, son nom, c'est Saturday, puis il perd en un Saturday de même. C'est vraiment gênant. Puis l'autre bout qui m'inquiète, c'est que je suis mal pour eux, c'est qu'il y avait un seul match de football à ce moment-là. Écoutez, là, quand il y a les dimanches, là, puis là, toi, tu suis ton équipe, puis tu veux écouter ta game, puis là, il y a plein de games en même temps, ça passe mieux. Mais quand t'es le seul match de football à l'antenne, puis que encore un peu à la Super Bowl, tu vis cette remontée-là, très, très gênant. Les Vikings, ça a dû les gonfler à bloc parce que le number one seed spot est encore disponible pour les Vikings. On a appris la blessure et on va en parler du carrière des Eagles, on va en parler après. Mais moi, je pense que les Vikings, ça va les gonfler à bloc. On a vu Kirk Cousins, tout le monde capote dessus, mais n'oubliez pas que Kirk Cousins, dans le match, a quand même lancé une interception qui a mené un touché. Cette semaine, tu ne l'as pas nommé comme ton joueur de la semaine, tu as nommé Josh Allen, ça a fait réagir. C'est drôle de voir ça, parce qu'à quelque part, quand les équipes font des comebacks historiques, ils ont toujours bien laissé aller ça. Il n'y a pas un coach qui est fier de ça. Il est content que l'équipe n'ait pas abandonné, mais à quelque part, on perdait 33-0 à un moment pareil dans ce match-là.
Écoute, mon MVP de la semaine, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé, mais tu sais, ça le dit, MVP de la semaine, c'est pas l'MVP de la moitié de la game. Là. C'est l'MVP de la game, je vois le vert. Kirk Cousins, la première moitié de la game, là, un gros zéro. Tu sais, c'était pas fort son affaire. Josh Allen, il l'a eu pour des raisons là, évidentes. Là. Il a gardé son club, il a fait les plays qu'il avait à faire. Il a tout le temps été dans une tempête de neige contre une équipe qui n'était pas les Colts, les pays de la Ligue. On s'appelle les Dolphins. Fait qu'un match très important. Cela dit, c'est pour ça que ça allait à ça. Mais Rick, là, t'as 100% raison. Les Vikings, par contre, je dois leur donner ça. Ils m'ont montré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit d'équipe en voulant dire. Ils sont ralliés, ils sont revenus. Patrick Peterson, il a dit dans le locker room là, à la mi-temps, « Écoute, les gars, inquiétez-vous pas, il nous manque juste 5 touchés. C'est rien ça, la défense, on va les arrêter. » J'ai fait « Mon Dieu, ce gars-là, il a dit ça, ça n'a pas de sens. » Puis tabarouette, Patrick Peterson, le good old vet, il a tenu son bout. Félicitations, man, aux Vikings. Ça a montré une étoffe de caractère assez impressionnante.
Puis en terminant, ben, on a appris la blessure qui mène à la fin de la saison de Jonathan Taylor, qui va revenir en santé l'année prochaine. D'après moi, les Colts vont repêcher top 5 cette année. On leur souhaite de retrouver du talent. Je pense que cette équipe-là va régler son problème au niveau du poste de corps. Mais ce roster-là est supérieur à l'affiche qu'ils ont actuellement. Et ici, ils sont chanceux de jouer dans cette division-là. Mais c'est un sujet qu'on va se garder parce qu'on a fini notre 4 minutes. Hey, c'est qui le roi de la montagne actuellement, Mystic Rick? Qui joue le meilleur football entre Jalen Hurts et Trevor Lawrence?
En ce moment, Rick, on parle pas de la saison au complet, puis là, je le sais, les fans des Eagles, ils me détestent, mais ils vont m'haïr encore plus. Mais je vais vous amener des statistiques. Moi, j'y vais avec la belle chevelure blonde. Pour les gens qui me connaissent, j'ai pas de cheveux, fait que j'adore ces cheveux blonds dans le vent. Il me fait capoter, c'est Trevor Lawrence, l'ancien des Clemson Tigers. Regarde, là, on va comparer pour le fun, Rick, les 5 dernières games, OK? Fait que Jalen Hurts, les 5 derniers matchs, QB rate, en fait, de 101.4. Il a lancé, là, seulement, là, 2 interceptions pour 8 touchés en 5 games. Fait que moi, je ne vais pas commencer à compter les verges au sol. Tu vas me dire, Rick, ça n'a pas d'allure. Il faut que tu comptes ça, ça fait partie de sa game. 100%, je vous le donne, mais moi, je ne le compte pas. C'est moi qui décide. J'ai décidé de ne pas le compter. Fait que c'est de même. Il a lancé pour 1255 verges. Moi, un corps arrière, là, j'aime un corps arrière qui reste dans la pochette pour la longévité. On a parlé de ça plus tôt dans d'autres podcasts, Rick. Fait que là, on va aller à mon Trevor Lawrence, qui est un QBR de 111.1 les 5 derniers matchs. Il a lancé 13 passes de toucher, pas 8, là. 13. Il a lancé un pick, pas 2. Puis il a lancé 1445 verges. Puis pas rien que ça, Rick, là. Il a ramené son club tout le temps des moments clés. Il a fait des drives au quatrième quart qui a gagné la game. Il était absolument incroyable. Contre les Cowboys, là, la semaine dernière, fin de semaine, je veux dire, il était absolument incroyable. J'enlève rien à Jalen Hurts. Il est MVP pour moi à date cette année. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ça peut changer jusqu'à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, tu me dis de voter, je mets Jalen Hurts MVP. Mais si tu me dis, Rick, en ce moment, les cinq dernières games, je les compare, je prends Trevor Lawrence.
Bon, je trouve ça intéressant que toi, t'es tellement important que tu veux mettre les cinq dernières games, puis toi, une saison complète de football, c'est pas important. C'est les cinq dernières games qui comptent. Avant, ce qui s'est passé, là, c'est d'un mirage, un nuage. Fait regarde, moi, je vais te ramener sur Terre, là. Jalen
Momentum, Rick. Momentum,
Hurts. Jalen Hurts, là, en ce moment, il joue un football de calibre MVP. Honnêtement, ce gars-là, dans la red zone, il n'y a personne d'aussi dominant. Il connaît une saison phénoménale. Il ne tourne pas le ballon over. Seulement cinq interceptions. Okay? On a affronté, hey, une seule défaite contre les Commanders. Sinon, on sera en situation d'une saison parfaite. Ce gars-là, en plus, avec ses jambes, trouve-moi un meilleur balance entre un carrière. Au niveau du jeu de la passe, 3 400 verges, 22 passes de toucher, puis le jeu de la course, il est dans le top 5 cette année au niveau. Hey, le plus proche de lui, là, en termes de qualité au niveau des courses tentées, c'est Austin Eckler qu'il faut regarder. Je veux dire, le gars, il a développé tout de suite une relation de qualité avec A.J. Brown, Devontae Smith, qui est un jeune, Dallas Goedert, il a pris les choses en main. Honnêtement, je comprends que la ligne à l'offensive est solide, mais en ce moment, Jalen Hurts est l'homme à tout faire dans la NFL. Pour moi, je vois pas comment. Puis c'est ça qui est triste. Là, on a appris la nouvelle. La blessure à l'épaule va lui faire manquer minimalement 2 semaines, possiblement 3. Je pense que les Eagles font la bonne chose. Et ben, ça va coûter le MVP à Jalen Hurts. Patrick Mahomes va sûrement l'emporter. Va sûrement battre le record du passing yardage avec la semaine 18, avec 17 matchs. Mais moi, je trouve que le plus beau, bel équilibre entre passer le ballon, courir, il y a beaucoup de matchs que Jalen Hurts a remporté au-delà de sa défensive qui était là pour lui en début de saison. Mais je te l'accorde que dans les 5 derniers matchs, Trevor Lawrence est supérieur. Cependant, avant ces 5 matchs-là, il y a eu beaucoup de matchs de football. Hey, juste te dire, les Eagles, 2 fois cette année, 45 points, back-to-back, faut le faire pareil.
Hey, je te le donne, là, mais tu sais, moi, je vois tout le temps, je regarde en avant, moi, Rick, je regarde pas en arrière, la progression, man, la progression, ça sort. Je vois le progrès, puis je vois Jalen Hurts qui descend. Écoute, on a parlé souvent de ce show-là. Est-ce qu'on enlève des affaires Justin Fields à Jalen Hurts, à tous les gars qui courent? Non, mais on le sait, la longévité de ces gars-là, ça les aide pas. Puis oui, il va sûrement perdre son MVP à cause de ça. Puis je veux juste finir là-dessus. Puis c'est pas juste à cause de son style de jeu, c'est qu'un corps arrière n'est pas censé de se faire fesser autant qu'un running back, OK? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le gars là, qui se fait frapper, ses bords, ses côtés, il a besoin de lancer, il a besoin de tourner. C'est sûr que ça va avoir un effet, puis la longévité n'est pas là.
Hey, je sais pas si tu le sais, mais cette semaine, on a la chance de recevoir un gars légendaire des Moineaux, des Owls de Montréal. Notre invité à notre 8 bonnes minutes, pas le temps de niaiser, avec Luc Brodeur Journée, mon gars. Nous, comment ça va, Luc?
Ça va très bien, vous, monsieur?
Hey, c'est un honneur de te recevoir, Luc, ça fait vraiment plaisir.
Hey, c'est un honneur, puis écoute, là, j'aimerais juste ajouter, là, c'est un champion 3 fois de la Coupe Vanier, 2004, 2006, 2008. Fait que le gars, il est all around des bagues, t'en veux-tu, là, ses mains, ils brillent, mes amis, ça brille.
Ah, ben, je suis bien heureux de les avoir emportés, mais je les ai donnés. Fait que.
T'es-tu sérieux? À qui t'as donné ça?
Oh, ouais!
Ah, mais mon père, mes pères.
Ah, j'aime ça.
Wow, c'est bon, ouais, ça. Oui,
je les ai donnés. J'ai gardé les seuls de la Coupe Grey 2009-2010. Puis, j'ai toujours celle également de 2008 avec le rouge et or, mais tu sais, comme les. Et on nous donnait des bagues pour faire partie de la première équipe d'étoiles dans le football universitaire canadien. Puis ceux-là, je les avais donnés à ma mère. On essaie de partager un peu le bonheur avec tout le monde. Mais c'est sûr que les bagues de la Coupe Grey, comment dire, quand tu reçois le certificat d'assurance qui dit, tu sais, c'est en 2009-2010, tu sais, puis tu reçois ton certificat pour les assurances qui dit que les balles valent 20 000, tu fais comme, ouais, j'aurais peut-être y pensé avant de...
On va mettre ça dans un safe dans la maison à quelque part.
Exactement.
Hey, j'aime ça. Écoute, on a une question pour toi en partant. T'es un gars, t'es un grand fan et défenseur du football canadien. Moi, je veux savoir, tu dis quoi à ceux qui croient que la CFL devrait jouer plutôt un football américain?
Premièrement, c'est qu'on joue un football américain parce qu'on est en Amérique, mesdames et messieurs. On joue un football différent. On joue un football qui est ouvert. C'est la meilleure façon, comment dire... je vais te donner un type d'exemple. Tu sais, moi, quand je regarde un match de la NFL, ce que je vois, c'est un paquet de temps d'arrêt avec des longueurs, un manque d'action, les équipes perdent par un toucher plus dans les trois dernières minutes, les équipes vont écouler le temps, des fois ça serre la main, il reste 1 minute 15 au cadran, puis les équipes embarquent sur le terrain, ils laissent écouler le temps de jeu. Je trouve ça insultant, tu sais, ça va comme à l'encontre du fameux « ben c'est pas fini tant que c'est pas fini, on peut se faire surprendre, il y a toujours l'espoir d'un autre jeu ». Et dans le football de la Ligue canadienne, ce que j'ai entendu énormément à mes débuts, puis dans mon évolution dans ce sport-là, c'était à quel point dans la Ligue canadienne, on passe, c'est toujours le botté, les unités spéciales et tout, mais c'est des jeux qui sont extrêmement pertinents dans notre ligue. Mm-hmm. C'est des jeux qui changent le positionnement de terrain, c'est des jeux... avec des fois des jeux truqués et c'est pas simplement le fameux fair catch, excusez l'anglicisme, mais tu sais, juste waver puis attraper le ballon, tout le monde, on s'en va en pause publicitaire, on vous revient dans 3 minutes pour prendre ensuite les 3 timeouts par équipe avant la demi pour avoir les 3 autres timeouts deuxième. Tu sais, c'est, il y a pas 40 secondes entre chaque jeu, il y a 20 secondes. C'est un football avec un bon rythme. En plus de ça, on a les motions, on est capable de voir diverses formations, un jeu de déploiement où est-ce qu'on utilise la largeur du terrain, on est capable d'être diversifié, on a un beau football, ça prend juste un petit peu plus de temps, je pense, pour l'utilisateur au consommateur à s'asseoir puis à comprendre ce qui se passe, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses, puis même les gens qui connaissent bien leur football, et qui ont passé énormément d'années à regarder du football de la NFL, quand tu regardes le football de la Ligue canadienne, « Oh my God, so many motions. » Tu sais, quand tu parles avec un Américain, « So many motions, there's way too much stuff going on. » Puis moi, c'est comme le contraire. Quand je regarde le football de la NFL, eh bien, premier essai, on court avec la balle, on va chercher 2 verges, 3 verges. on le réessaye en 2e essai. On dirait que je vois l'autre facette.
En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Luc. Là, c'est vraiment, dans le fond, le principe, c'est un fast-paced game. C'est-à-dire, on va couper un peu, là, excuse-moi l'anglicisme, là, mais we're going to cut in the grease. On va y aller, on va couper dans le gras, on va aller direct. On va mettre des gars sur motion, on va envoyer ça, c'est flat, des hooks, des slant routes, des slogos. On va envoyer ça partout, puis we're going to air it out. Mais moi, de mon côté, là, je vois ça, puis je me dis... Un offensive line, OK? Là, on va se le dire, tu es un ancien joueur de ligne offensive, tu étais un assistant joueur, un assistant coach pour la ligne offensive, puis tu étais promu, en fait, offensive line coach, coach de la ligne offensive en décembre, le 2 décembre 2020.
Oui.
Là, il y a la nouvelle arrivée du fameux head coach. Écoute, là, il se fait, on en jase pas mal les derniers temps, surtout les dernières 48 heures. Avec tout ça, là, avec Jason Mass à titre d'entraîneur-chef, comment tu vois le tout pour les Alouettes pour la saison à venir?
Mais comment dire, Jason, c'est un ancien carrière qui a connu quand même du succès dans une certaine mesure en tant que joueur, mais qui a fait sa réputation d'étant un joueur de second rôle au cours de sa carrière. La vaste majorité du temps, ça reste quand même que c'est souvent ces joueurs-là qui deviennent les meilleurs entraîneurs. C'est pas nécessairement parce que à partir du moment où est-ce que t'as peut-être pas les mêmes capacités naturelles à lire le terrain, à distribuer le ballon avec une efficience, une passe qui est parfaite à l'endroit précis, au bon moment, avec le bon déploiement, ben il faut que tu le compenses avec autre chose. C'est toujours de trouver cette balance-là dans le joueur en tant que tel. Tu sais, quand tu deviens entraîneur, c'est de trouver la balance de dire, OK, ce joueur-là est un fort, très fort potentiel athlétique. Maintenant, il faut que je travaille ses connaissances football parce qu'il est parvenu avec son bagage génétique, avec ses habiletés physiques, avec son potentiel. Et quand tu es de l'autre côté, quand tu en as moins, tu te dois de devenir vraiment un étudiant de la game et de vraiment de travailler à fond ta technique, de travailler, de peaufiner ton art au maximum, parce que tu sais que les attributs athlétiques, tu les as pas. Donc, c'est ou tu ne les avais pas, il faut les travailler, il faut que tu te développes, il faut que tu deviennes. Donc, c'est toujours ça en tant que joueur, ce avec quoi tu joues. Tu sais, t'es né avec quelque chose, t'es né avec un gabarit, on te met sur la ligne à l'attaque. Il reste que, tu sais, c'est une position pour la ligne à l'attaque en tant que telle, que personne qui s'est dit, bon, je vais me mettre en 3 points d'appui, puis je vais faire une passe pro. Il n'y a rien de naturel dans cette position-là, à part d'être un gros bonhomme. Mais quand tu penses à un corps arrière, ben, les corps arrière que j'ai vus devenir de bons entraîneurs-chefs, de bons coordonnateurs, c'est souvent initialement, je dis pas toujours, mais initialement, ceux qui émergent le plus rapidement après leur carrière de joueur, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont eu les plus grandes carrières. Tu sais, bon, puis on peut penser à, même on peut transiger ça dans plusieurs sports. Comment dire, ce que je dis là, c'est pas nécessairement quelque chose qui est
Qui va être
uniquement
relié au
relatif.
football, là, ça va
Exact.
vraiment être vu dans plusieurs
Puis
sports.
on a vu plein d'exemples cette année, Kevin O'Connell avec les Vikings, Mike Tomlin à l'époque, c'est des gars que oui, ils voulaient devenir de grandes superstars dans le football, mais c'était plutôt des étudiants de la game comme tu l'amènes. Puis c'est ça qui a fait qu'ils connaissent du succès comme entraîneur aujourd'hui.
Ben oui, exactement. Puis même ici au Québec, tu sais, je pense notamment à Gilfred Gagné, qui était avec Saint-Jean-Eudes à Québec, qui a fait un excellent travail pendant plusieurs années, qui était notre corps arrière, si je ne me trompe pas, notre troisième corps arrière quand j'étais avec le Rouge et Or à mes premières saisons, et qui a été entraîneur toutes ces années, puis qui a eu quand même du succès. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes, bon, ben, regarde, pour Anthony Calvillo, ben, tu sais, l'apprentissage, c'est de devenir un peu plus un pédagogue, d'arriver à enseigner ce que toi, t'accomplissais un peu naturellement, ou des fois, c'est juste de faire comprendre, puis ça, c'est difficile quand tu deviens entraîneur, de faire comprendre aux jeunes qui émergent et qui arrivent l'éthique de travail d'un professionnel. Parce que l'initial, tu sais, quand tu arrives dans le circuit professionnel, tu peux être un peu plus, comment dire, jeune, si on veut, frivole, de vivre la vie que ça peut apporter. Mais si tu veux perdurer longtemps dans le sport, il faut que tu brises cette barrière-là des 3 ans. Il faut que tu aies marqué le terrain, il faut que tu aies foulé le terrain, il faut que tu aies joué. Puis il faut que tu prouves que tu as les capacités et que tu deviens un joueur fiable et un joueur constant. Donc, pour ce faire, ben, ça demande énormément de travail et de préparation parce que tu veux tout le temps être un step ou deux en avant de l'adversaire.
Mais c'est super intéressant, puis tu as parlé du volet pédagogue entourant Anthony Calvillo, mais tu es un des rares gars qui a pu jouer qu'Anthony dans son prime. Tu sais, c'est un gars qui a marqué la Ligue canadienne de football, qui a joué en âge avancé, qui a connu du succès vraiment longtemps. Tu peux-tu nous décrire une petite anecdote sur c'était quoi jouer avec lui au niveau de la préparation, au niveau de démontrer à quel point c'était un professionnel ultime, puis qu'on a été chanceux de le voir jouer aussi longtemps à Montréal?
Ben moi, c'est sûr que l'exemple le plus éloquent pour moi, c'est lorsque j'étais je crois, ma première ou deuxième année. Tu sais, j'ai toujours été un lève-tôt. J'étais quelqu'un qui arrivait très, très tôt au stade olympique. Même dans ma carrière de joueur, tu sais, je me levais à 4h20 du matin, à 5h. À l'époque, on était tous membres du Pro Gym, qui est proche du
Hashtag,
stade olympique.
yeah.
Ouais, donc on avait accès à la salle d'entraînement là-bas. Donc j'arrivais à 5h du matin, puis j'allais m'entraîner au Pro Gym, prendre soin de son corps évidemment. Et lorsque je terminais, tu sais, Anthony Calvillo était toujours là, en train de regarder les bandes de vidéo en se préparant. Puis tu sais, c'était, comment dire, j'arrivais, puis des fois il n'y avait pas tous les entraîneurs qui étaient sur place, mais Anthony était déjà là. Puis tu sais, c'est l'éthique professionnel que je voyais sur une base quotidienne. Et puis, tu sais, ça m'a influencé grandement, évidemment, quand je suis devenu professionnel. Mais c'est quand je l'ai vu blessé. Quand je l'ai vu blessé, là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien changé à sa routine. Il continuait à se préparer comme s'il était pour jouer. Il regardait ses adversaires. Puis, je crois que l'éthique en arrière de tout ça, c'était tout simplement de dire, OK, je joue pas, mais je me prépare comme si je jouais. Comme ça, je vais être prêt pour le match. Puis, c'est de dire, ben, c'est quoi que je suis en train de faire? Ben, je suis en train d'être le meilleur joueur possible pour mon organisation. Tu focuses sur ta rehab, mais tu te prépares comme si tu étais pour jouer. Puis ça, c'est une éthique de travail. C'est ça, être un professionnel, c'est de dire, regarde, je connais pas mon rôle. Mon rôle peut changer d'une semaine à l'autre, mais mon éthique de travail, ce que je fais à tous les jours, le secret de mon succès, la fameuse recette, c'est quoi pour moi? Puis ça, c'est propre à chacun. C'est différent pour tous. Mais c'est quoi ma recette qui a fait mon succès? Puis il faut que je continue à le faire, même si ça fait 15 ans que je suis dans la ligue, même si ça fait 17 ans, 20 ans. Puis j'essaie de l'améliorer au fil du temps.
Écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Luc. Là. Puis ça a dû faire en sorte là, que durant toutes ces Grey Cup runs-là, puis les dominances que vous aviez quand vous étiez au stade olympique, puis que le stade était à vue d'exploser à chaque fois. Je vais jamais oublier un match contre les Argonauts. J'étais là, puis j'ai jamais vu. J'ai été voir des matchs de la NFL, mais un match là, de la CFL, des Alouettes contre les Argonauts au stade olympique, je vous le dis, là, mettez votre argent là-bas, ça vaut la peine. Le toit, littéralement, il aurait pu exploser. Je voyais là, le stade monter puis descendre, j'en revenais tout simplement pas.
Pas de corriger, mais le toit a déchiré.
Ouais, le toit a déchiré.
Hey, pour vrai, merci d'être venu. C'était un super beau moment. On aurait pu continuer une heure avec toi. Mais merci d'avoir donné du temps à 100% football. C'est un honneur de t'avoir parlé, Luc.
Hey, ça me fait plaisir, messieurs. N'importe quand.
Hey, merci beaucoup, Luc. Pensez à toi.
Au revoir.
Bye-bye.
Hey, pour vrai, c'était-tu intéressant? On aurait pu tout faire ça. Merci, Luc. Et j'étais surpris que Luc prenne l'amour dans le pré, qui est chum avec Guillaume Pinault. Guillaume, qui est le gars qui me fait rire par rapport à Occupation Double. Moi, je suis plus Occupation Double que l'amour dans le pré, je dois l'admettre.
Mais tu sais, c'est pour ça qu'on fait un bon duo. Rick, moi, Occupation Double, là, tu pourrais me mettre ça devant la télé, me donner 1 million, je l'écouterais pas. Fait que moi, je suis l'amour dans le pré. All the way, baby. Let's
OK, OK, OK. Hey, question cette semaine. I want to know, qu'est-ce qui arrive avec les Titans? Les Titans semblent avoir perdu leur mojo. Tu sais, cette semaine, j'ai écouté le film Black Adam, puis ils disent que c'est un dieu. Mais les Titans étaient censés péter à gueule aux dieux, puis les dieux nous pétaient à gueule. Puis en ce moment, les Titans se font péter par un jaguar. Puis un jaguar, ça, c'est un animal qui vit dans les arbres. Fait que je sais pas si tu sais, mais qu'est-ce qui se passe avec les Titans du Tennessee right now?
Regarde, ça va pas bien. Rick, ça va vraiment pas bien là, à Tennessee. Tout est parti là, après la fameuse dégelée là, qu'ils ont mangée par les Eagles. Ils ont mis leur GM à dehors, ils l'ont foutu à la porte. On a parlé en entrée de jeu dans l'émission. Après ça, ils vont jouer contre les Jaguars. Les Jaguars, ils en foutent une 36-22. Là, ils disent « OK, le gros match, l'important, on va aller jouer contre les Chargers là-bas, on va essayer de faire quelque chose. » Ryan Tannehill se blesse. Ils ont bien joué défensivement. Tu vois ce club-là défensivement, il a l'air de bien jouer. Il les met en position, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit « Hey, tu sais quoi? Arrêtons Derrick Henry. Là. Ils n'ont plus d'A.J. Brown, ils n'ont plus rien. Fait qu'on va « fill the box », on va mettre ça à 8 dans la boîte. » là. On va tout remplir les gaps, les A gap, le B gap, le C gap à l'extérieur. On va envoyer des corner blitz, on va descendre. On va les laisser nous battre avec leur play action s'ils sont capables. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de receveur qui sont d'attraper ce ballon-là. Ça va me dire, ouais, mais Rick, il y a Burks. Ouais, mais il n'y a pas de carrière qui lance le ballon, Rick. Fait que le problème qui se passe avec les Titans en ce moment, ils ont mal parié. Ils ont pris un pari avec A.J. Brown. Puis ce pari-là, ils ont de l'air de coûter cher, s'il vous plaît, en ce moment.
Bien, en fait, là, on le voit, là, c'est que les Titans du Tennessee ont longtemps été une équipe qui était malheureusement pas une franchise sexy. L'arrivée de Derrick Henry a ramené cette équipe-là dans le cœur du monde, d'avoir un gros bonhomme, un gros porteur excitant, connaître du succès, être dur à plaquer, qui ramène au football des années 90. Hey, depuis 2018, là, les Titans ont battu les odds de Vegas au niveau des victoires. À chaque fois, les prédictions de victoire qu'on faisait, les Titans les ont battus. Oui, Mike Vrabel a aidé, mais Mike Vrabel est en train de devenir un joueur, une personne trop importante dans cette équipe-là. John Robinson, un des GM qui a le plus de succès, un gars qui avait un contrat jusqu'en 2027. Hey, sais-tu quoi? Je pense qu'il y a encore plus d'argent qui se rajoute aux 800 millions qu'on a parlé tout le temps. C'est un gars qui avait la 9e fiche des GM actifs. On parle de la 5e fiche en termes de victoire depuis 2018. On a laissé aller du talent A.J. Brown, Corey Davis, mauvais repêchage, Isaiah Wilson 2020, Caleb Farley 2021. On a eu 6 saisons gagnantes de suite. L'équipe est clairement moins bonne qu'en 2021. Ce qu'on retient, là, puis c'est simple, c'est que oui, Ryan Tannehill a donné du bon football, mais on était tous surpris quand c'est arrivé à l'époque. Ryan Tannehill, là, il joue blessé. On y en demande beaucoup. Et je pense que pendant trop longtemps, Derrick Henry, par son bon football, a patché la faiblesse de cette équipe-là. Puis là, c'est ça qui m'inquiète, c'est que les deux dernières semaines, Derrick a connu des meilleures semaines. Tu sais, une semaine de 30 verges contre les Eagles, une semaine de 38 verges contre les Bengals. Mais là, 104 la semaine dernière contre les Chargers, 121 contre les Jaguars. Là, c'est là que ça m'inquiète parce que Derrick ne joue pas du mauvais football, mais on trouve le moyen de perdre quand même. Honnêtement, moi, je suis inquiet du côté des Titans. Est-ce que Ohio State va aller chercher Mike Vrabel pour devenir leur coach? I don't know, mais si c'est le cas, on va avoir tout perdu là-dedans. Je suis convaincu que John Robinson va devenir un GM dans une nouvelle équipe proche. Et pour vrai, je pense même que les Titans vont perdre le lead de la division. Puis si on va le savoir à la dernière semaine d'activité, et je serais très content que les Jaguars et le gars qui joue le mieux au football actuellement, Trevor Lawrence, fassent les séries.
J'adore ce que tu dis, ça fait du sens de A à Z. Juste une dernière petite mention avant qu'on passe à un autre sujet. Là. Les semaines 1 à 10, leur défensive là, était dans le top, était au numéro 1 en première place avec le nombre de pressures sur le carrière à 34,3% de pressure rate de 1 à 10, according to Next Gen Stats. Puis après ça, la semaine 11-14, là, ils sont tombés dans le bottom 3, là, dans la base de la cave, les trois pays équipes qui amènent la pression. Puis pourtant, c'est la défensive qui fait vraiment leur force avec le running game. Mais là, ils ont joué contre les Chargers, ils ont perdu. Cette défensive-là, elle est apparue comme se doit. Derrick Henry est apparu comme se doit, mais ils ont quand même perdu. C'est inquiétant, Rick. C'est inquiétant.
Ça m'inquiète presque autant que la couche d'ozone qui est en train de fondre. Je voulais te parler, il nous reste 3 semaines d'activité et honnêtement, je ne sais pas si tu le remarques toi aussi, mais il n'y a rien de garanti. On a vu des équipes se qualifier pour les séries éliminatoires, mais des deux côtés, AFC, NFC, le premier rang n'est pas assuré. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelle équipe tu vois se glisser en séries éliminatoires cette année.
Mais regarde, on va enlever les équipes sûres, OK? On va commencer avec l'NFC pour le fun. Fait qu'on va enlever les équipes sûres qui vont faire les séries. Les Eagles, les Vikings, les Niners, les Cowboys vont faire les séries. Là, on s'entend là, que ces 4 clubs-là, là, ils vont pas avoir de surprise. Fait qu'il en reste 3. Fait que c'est qui va rentrer là-dedans? Là, le monde dit « Ouais, mais les Buccaneers sont en ce moment numéro 1 de la division. » Mais moi, je les vois même pas, les Bucs, là-dedans, Rick. Je vais revenir sur les Bucs puis cette division-là juste un peu plus tard. Je vais y aller que je pense que je crois sincèrement que les Giants, après la victoire qui ont été volés aux Commanders, vont avoir une chance d'y rendre. Puis, là, c'est là qu'ils vont en surprendre une coupe. Je pense que les Commanders, la route qui s'en vient va être très difficile. Je pense que les Lions, leur adversaire qui reste, ils ont plus de chances. Moi, je vais mettre les Lions qui vont rentrer avec les Giants, puis je vais enlever les Buccaneers, puis je vais mettre les Panthers de la Caroline. C'est eux autres que je vais mettre dans la division de l'enfer de l'NFC Sud. C'est vraiment eux autres que je vois rentrer là, pour la NFC jusqu'à présent.
Intéressant, on a entendu Peyton Manning cette semaine se prononcer qui disait que s'il pouvait, il éliminerait la NFC South pour permettre à toutes les équipes de la NFC East de participer. Mais on se rappellera qu'il y a une couple d'années quand les Bucks ont gagné le Super Bowl, Alex Smith et sa jambe reconstruite avaient pu participer aux séries. Et en plus, c'était Taylor Heinicke qui avait éclos dans ce match-là. Et on avait fait les séries avec une fiche perdante. Ça peut arriver. Mais moi aussi, je pense que les Panthers pourraient surprendre parce que les Buccaneers jouent un très mauvais football. Mais c'est pas eux qui m'intéressent le plus. Je dois admettre qu'en ce moment, les Lions jouent un football incroyable. Si c'était pas les Lions ont donné une correction aux Jaguars qui sont dans leur meilleure séquence depuis très longtemps. Les Jaguars là, qui ont réussi à clencher tout le monde, ont même surpris les Cowboys. Mais les Lions, 40-14 contre les Jags. Les Lions un des plus beaux air games de la ligue à regarder en ce moment. Jared Goff, qui, oui, quand il a été changé contre Stafford, on est content d'avoir le Super Bowl, mais clairement va être de retour l'année prochaine. Et on pense que les Lions, avec leurs deux premiers choix qu'ils ont obtenus, notamment des Rams, vont pouvoir repêcher enfin des joueurs défensifs et devenir une équipe complète. Mais sérieusement, les Lions, je les vois faire les séries. La défaite des Commanders. Commanders, tout le monde a pleuré pour la punition qui n'a pas été appelée en fin de match. Mais cependant, il fallait tout de même, ça ne veut pas garantir qu'il y aurait eu un touché. Puis il aurait fallu y aller pour le 2 points, puis seulement égaliser. Ça fait beaucoup de si pour espérer gagner un match de cette importance. Après un bye week, quand on a vu les Giants s'écrouler avec le nombre de blessés, Daniel Jones n'a plus d'armes. Mais c'est moi sûr que je regarde. Mais je trouve que la lutte, notamment plus intéressante, du côté de l'AFC, et je veux t'entendre, et je sais pas si t'entends le bruit.
Rick, je l'entends, là, pis ça, là, là-dessus, on est 100% d'accord. Les Chargers, je vous le dis, vont faire les séries. Une victoire importante qu'ils ont eue, là, contre les Titans, là, en fin de semaine. Tu sais, les Chargers, là, avec tous ces blessés-là, tu vas me dire, ouais, Rick, mais tout le monde a des blessés. Je vois, mais eux autres, là, c'est des studs qui sont blessés, pis tranquillement, ils reviennent. Puis là, les Chargers, ils vont jouer contre les Colts en fin de semaine. Ils devraient vraiment les foutre une raclée. Par la suite, là, les Chargers, ils continuent, ils vont jouer contre les Rams. Tu sais, les Rams, là, en ce moment, là, ils font pas peur à grand monde. Puis ils finissent la saison, les Chargers, contre pas « Let's ride des Broncos », mais « Let's hide ». On va se cacher, les fans de Broncos, parce que ça va pas bien là. Tu sais, fait que moi, je vois les Chargers faire les séries, mais on va revenir vraiment avec les évidents, encore une fois, là, pour les auditeurs. Les Bills, les Chiefs, les Bengals, là, ces trois-là, assurément vont faire les séries. Les Dolphins aussi, mais tu sais, malgré que là, ils ont tombé, là, sont 8-6, les Dolphins en ce moment, sont 7e techniquement, là, dans la dernière place disponible si les séries commenceraient aujourd'hui. Mais moi, c'est une équipe que je pense qui va pas les faire, Rick, là. Puis je te le dis, là, les Ravens, là, je serais même pas surpris qu'ils en gagnent même pas une d'ici la fin de la saison. Fait qu'avec le fameux 9 victoires, est-ce que ça ferait assez pour les faire faire les séries? Moi, je crois que non. Je pense qu'une équipe comme les Jets pourrait arriver de nulle part. Puis c'est de run the table. Ça va pas être facile, mais c'est clairement faisable. Mais s'il y avait une équipe là, que je devrais être inquiète, ça serait vraiment là, l'équipe des Ravens.
Ben moi, je suis pas certain de ça. Je m'explique. Les Ravens là, vont jouer contre les Falcons la semaine prochaine, les Steelers, et je pense que ça va être Mitch Trubisky. Puis on va finir contre les Bengals. Je pense que les Bengals vont se retrouver, qu'il n'y aura plus de différence entre finir troisième au niveau du seed que d'espérer finir deuxième en avant des Chiefs. Donc, je pense que tout ça va aider les Ravens, mais je serais très triste que les Ravens se retrouvent avec le même scénario que l'année passée. Lamar Jackson, qui offre de bonnes performances, qui permet aux Ravens de connaître un excellent deux tiers de saison. Huntley arrive, commence à vivre des complications, on perd des matchs clés et on se fait rafler à la toute fin. Moi, je suis inquiet pour les Dolphins. Clairement, on a vu un ralentissement. On voit là, qu'on commence à manquer de talent. Tyreek Hill est moins dominant qu'en début de saison. Tua se cherche un peu. Et je sais pas si tu as entendu là, aussi qu'est-ce qui a été déclaré de la part de l'équipe des Dolphins durant le match contre les Dauphins. Je voulais t'en faire entendre cette séquence-là. C'est une entrevue exclusive. Oui, c'est ça. Je vais te traduire. Ce que ça disait, c'est « Asti qui faisait frette à Buffalo ». On voit que les Dolphins, on est inquiets. Et les Jets avec Zach Wilson qui tente de jouer, qui a des matchs coup-ci, coup-ça, la défensive n'a plus de réponse, l'absence de Quinnen Williams, je pense que les Jets vont être écartés. Je vois les Chargers passer, mais peu importe, l'histoire à retenir, c'est que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne font pas les séries éliminatoires et ils vont être écartés à cause d'un jeu très bizarre en fin de match, comme on n'en a jamais vu contre les Raiders. Et on a clairement vu, c'est ça que ça fait être en amour. Hein? On n'a plus besoin d'étudier. Notre équipe semble trop s'aimer. On nomme de la famille à des positions clés comme coach. On met un gars de défensive comme coordonnateur offensif. Les Patriots n'ont ce qu'ils méritent et on était trop en amour avec notre organisation. Moi, je souhaite aux Chargers de passer. C'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent dans la saison morte. Keenan Allen est revenu, ça l'a aidé beaucoup. Justin Herbert devient le premier quarterback avec au moins 4000 passing yards en ses 3 premières saisons. Ça, mais l'histoire que je veux retenir, c'est que je veux que les Jags passent. L'absence et la blessure de Cam Robinson, left tackle, m'inquiète, mais trouvez-moi une équipe plus excitante à regarder, à jouer actuellement. La seule équipe qui me vient, ben, c'est les Lions, man.
Honnêtement, là, c'est bien dit. Là. Je te dirais, là, il y a les Bills qui rentrent dans cette équation-là, assurément. Mm. Là, Josh Allen, il joue du gros football offensif, défensif. Tu sais, les Bills sont vraiment beaux à voir. Mais les Jags, là, sont incroyables. Là. Ils sont tellement bien entraînés, bien coachés. Doug Peterson, il ne faut pas oublier, a gagné un Super Bowl avec les Eagles. Parti de là, tu sais, il y a vraiment eu une discorde avec l'organisation, une année sabbatique. Arrive avec Trevor Lawrence, apprend le playbook, début de l'année, coup-ci, coup-ça. Mais là, clairement, là, on en a parlé, les 5 dernières games sont absolument incroyables, vraiment hallucinants à voir jouer. Une chose est certaine, Rick, là, avec le peu de football qui reste à jouer les prochaines semaines, là, chaque match va être important.
Ouais, on ne peut pas en échapper un. Le match Jags-Titans dernière semaine va être incroyable. Et personnellement, je considère que l'enjeu le plus important en vue du Super Bowl parmi tout ça, c'est que les Bills de Buffalo se doivent d'aller chercher le number one seed du côté de la AFC pour être certain d'avoir l'avantage du terrain et surtout de reposer l'équipe. On sent que Josh Allen joue blessé. On sent qu'il y a beaucoup de blessés au niveau de la défensive. Je pense que moi, c'est l'enjeu que je surveille le plus parce que je pense que c'est celui qui va avoir le plus d'impact sur l'après-saison.
100% d'accord.
Hey, stats de la semaine, mon gars, je veux t'entendre. Tu voulais nous parler d'une performance défensive qui mérite mention.
Regarde, là, j'aimerais parler là, de Rashawn Jenkins. On parle beaucoup des Jaguars là, récemment. On parle de la prouesse de l'équipe offensive. On parle de tout ce qu'ils ont fait là, les 5 dernières semaines. Trevor Lawrence, Travis Etienne, même là, en fait, le Christian Kirk, Zay Jones, 3 touchés contre les Cowboys. Tu sais, vraiment, tout le monde a l'air d'exploser, mais personne ne parle assez de la défensive. Puis là, le Rashawn Jenkins, là, 9 tacles, Rick, 9 tacles contre les Cowboys, 2 interceptions. Le safety, il était absolument partout sur le terrain. Mais le plus important, son deuxième pick, Rick, là, c'est un pick 6 pour gagner à game. Pour gagner à game, Rick, là, contre les étoiles de Dallas. Enfin, montrons de l'amour à nos gars défensifs, je vois le vert. Defense, baby! Defense.
J'ai beaucoup aimé Thibodeau jouer aussi cette semaine. Là. 7 tackles, 2 assists, 1 sack, 1 force fumble. Et pour faire le TD, honnêtement, je trouvais que c'était une excellente performance. Puis j'aime que tu valorises les joueurs défensifs. On va en reparler, notamment Sauce Gardner, qui est en train de connaître une saison légendaire pour une recrue défensive. Mais moi, ma statistique de la semaine que je voudrais te parler, on a appris cette semaine, écoute, il reste encore 3 semaines de football. En début de saison, on pensait que la AFC West serait la division la plus dure à gagner depuis très longtemps. Et il reste 3 semaines de football et les Chiefs viennent de clincher la division pour une 7e année consécutive. On parle de constance, Andy Reid. On l'a fait 6 ans avec Pat Mahomes, une année même avec Alex Smith. Une équipe constante. Et là, le record et le titre d'MVP est encore à la portée de Pat Mahomes. Et tout ça sans Tyreek Hill, l'arrivée de nouveaux gars. J'ai jamais vu autant de nouveaux receveurs dans une même équipe. Sky Moore, Marcus Caldes-Valding, Juju Smith-Schuster. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui s'illustre. Et en plus de ça, ben, on a-tu eu des porteurs de ballon dans cette équipe-là, mon gars? Isaiah Pacheco, McKinnon. On a vu des nouveaux joueurs année après année. La seule inquiétude que j'ai cette année, c'est au niveau du botteur, Harrison Butker. Je pense que ça va être un problème en séries éliminatoires. Mais peu importe, pensez-y 2 secondes. On haïssait les Patriots pendant longtemps parce que Brady dominait la NFC East. On riait de cette division-là. Mais ça fait 7 années de suite que les Chiefs gagnent la leur facilement. On parle que c'est une ligue de carrière, bel exemple. Et honnêtement, je suis obligé de dire que les Chiefs sont cool à regarder. On a eu la chance de voir Laurent Duvernay tardif s'illustrer là. 7 années de suite, c'est 7 chanceux. Ça va être à surveiller pour plus tard. Et sais-tu quoi? Je pense qu'ils vont le refaire même l'année prochaine et peut-être l'autre d'après. C'est ça qui est le plus capoté.
Regarde, là, les gens doivent comprendre. Tu sais, Bill Belichick qui se fait appeler le GOAT avec toutes les raisons du monde, là, avec le nombre de Super Bowl, les apparitions, qu'est-ce qu'il fait. Même si récemment, Rick, là, je sais que toi, qu'est-ce que tu vois, là, puis que beaucoup de gens voient, Trouve que son passé pèse beaucoup trop sur la balance sur les dernières années. Ça, c'est un autre débat qu'on aurait pour plus tard. Mais Andy Reid, là, on doit donner crédit à Andy Reid. Rick, ce gars-là, il est dans la ligue depuis 1999, OK? De 1999 à 2022, là, c'est 24 ans dans la ligue. Veux-tu me dire combien de saisons qu'il y a eu en bas de 500 en 24 ans? Prends un guess. Vas-y, prends un guess.
Peut-être 4. Peut-être 5, Max?
Rick, t'es pas là, là. Il y en a eu 3, man. 3. Il y en a eu 3. Puis une des 3, sa première année en 1999 avec les Eagles, il était 5-11. Après ça, là, tu veux-tu de la dominance? 11-5, 11-5, 12-4, 12-4, 13-3. Une saison de 6-10. 10-6, 8-8, 9-6, 11-5, 10-6, 8-8. Et la dernière saison en bas de 500 avec les Eagles 4-12, c'est là qu'il s'est fait congédier. Puis après ça, il est parti avec les Chiefs. Depuis qu'il est avec les Chiefs, mon Rick, là, aucune saison en bas de 9 victoires. Laisse-moi répéter ça là, à tout le monde à la maison. Aucune saison en bas de 9 victoires. Voulez-vous parler de dominance? On va parler d'Andy Reid.
Hey, c'est-tu pas malade? Hey, c'est ce qui m'a fait à l'épisode, mais il y a un paquet de trucs à surveiller cette semaine sur la planète football. Notamment, c'est ça que je veux faire jaser, Desmond Ridder, l'avenir des Falcons. Moi, honnêtement, j'ai été voir son premier match. Tu sais, on va lui donner un C, mais on a vu qu'un gars qui a une équipe très limitée. Moi, je considère que les Falcons ainsi que les Bears de Chicago représentent probablement les équipes avec les Texans aussi, les trois équipes peut-être avec les rosters les moins complets de la ligue. Mais quand même, Ridder a montré des belles choses en pré-saison. Peut-être que les Falcons veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire au moment du repêchage. Comment tu as trouvé ça?
J'ai adoré voir Ridder jouer. Il n'a pas fait grand-chose, vous allez me dire. Premier carrière depuis un méchant bout, je pense, depuis Matt Ryan, là, qui n'a pas eu en haut de 100 verges là, pour un start pour les Falcons. Fait que, ça, c'est quelque chose, mais je pense pas que c'est rien d'alarmant. Et il apprend le playbook, il fait ses choses. Il ne faut pas oublier Ridder. Là, il arrive là, des Cincinnati Bearcats. Il a passé là, de 2018 à 2021. Il était absolument incroyable sa dernière année, là, son senior year, là, un QBR de 158.7. Il était vraiment partout. Là. Il a amené son club au Peach Bowl. Là. Pour le monde qui ne le savent pas, mais le Peach Bowl, là, c'est tellement important. Ils ont joué contre les Bulldogs de Georgie. Puis, en fait, là, ils ont perdu 24-21 contre les Bulldogs. Puis pour le monde qui suit la NCAA, là, les Bulldogs, là, c'est une puissance défensive. Fait que Desmond Ridder, là, je ne m'inquiète pas, puis je vais même m'avancer, là, un petit spoiler alert, pour que le monde suive la page. Ma surprise la semaine, là, les Falcons vont battre les Ravens la semaine prochaine. Ils vont les battre. Je vous le dis, ils vont les battre.
Gros call, mon gars. Moi, le match qui m'intrigue cette semaine, là, parce qu'on parle de ce qui va être à surveiller, effectivement que les Jags et les Jets jouent contre ce jeudi, ça va être un match clé pour les deux équipes en vue de participer, mais honnêtement, je vois mal comment les Jets, qui ont une offensive très mollo depuis un petit bout, peuvent s'en sortir contre les Jaguars qui sont full octane avec Travis Etienne, Zay Jones, qui ont donné une révélation. Et tout le monde riait de la signature de Christian Kirk qui a donné de l'excellent football, mais moi, je veux savoir comment les Eagles sans Jalen Hurts et le retour de l'enfant terrible de la moustache Gardner Minshew vont s'en sortir contre les Cowboys. Je trouve que c'est un match quand même important et je pense que les Packers vont peut-être donner le coup de grâce aux Dolphins en vue de faire les séries éliminatoires. Ça va être un gros dimanche de Noël, 25 décembre. Pour vrai, mettez donc la télé, pas de son. C'est l'occasion rêvée. Le 25 décembre, en après-midi, si vous recevez de la famille, de leur faire écouter un peu de football, puis de leur montrer à quel point vous aimez ça, qu'est-ce qu'il y a d'excitant, puis quand ils vont voir crier « yes », puis qu'il n'y aura pas de son à la télé, parce que vous allez comprendre ce qui s'est passé, moment magique de Noël, c'est le moment rêvé de donner un petit bisou sur le front à maman, puis dire « je suis content que vous voyez là ».
J'adore ça. Puis on souhaite à Gardner Minshew là, d'avoir une belle performance. Là, on va se rappeler, il va faire partie d'une une classe vraiment là, à part de corps arrière qui vont être disponibles à la fin de la saison. Je sais que c'est la fin du show, là, mais je vais juste lancer la liste de corps arrière disponibles à la fin de la saison. Gardner Minshew, Case Keenum, Mason Rudolph, Andy Dalton, Joe Flacco, Cooper Rush, Geno Smith, Mike White, Jacoby Brissett, Tyler Heinicke, Drew Locke, Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Baker Mayfield, Daniel Jones, Jimmy Garoppolo, Lamar Jackson puis Tom Brady, ils ont tous pas de contrat. Fait qu'il y en a-tu... Y a-tu un Garner Minshew, s'il joue bien, va se faire pitcher du cash, mon Rick? Il va se faire pitcher de l'argent par une équipe, je te le dis, mon boy.
Moi, je pense que c'est un des meilleurs backups de la Ligue actuellement. Puis même qu'il a failli, je pense, l'année passée, avec une coupe de performance, déloger Jalen Hurts. Et je pense que dans ceux que tu n'as pas nommés, on va pouvoir ajouter peut-être un Derek Carr qui va peut-être être libéré avant la pénalité de son contrat au mois de février et qui est peut-être un gars top 15. Puis il y a une équipe qui va donner de l'argent. Je pense aux Giants. Je pense aux Commanders, je pense aux Saints, je pense même aux 49ers et je pense à plusieurs équipes de ce type-là qui pourraient être à la recherche d'un carrière prochainement. Ça va être le dossier chaud à surveiller. Et c'est ce qui met fin à notre épisode de 100% Football. Vous avez été fantastique. Mon nom est Rick Huard, je suis le Sportcaster Chef et j'ai Mystic Rick, alias Mystic Rick, avec nous. C'était un épisode fantastique!
Hey, salut tout le monde, à la semaine prochaine.
est trop fort, trop fort pour la ligue. Même si saigne ta gueule à chaque mise en échec. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Tu t'es trop une catégorie, tu fuck avec des gorilles. On est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue. Fais rater ton atterrissage, t'auras compris des vrais pirates. Trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Si y'a du pitch, ça finit mal, ici c'est tout, c'est ça.